Nous sommes à Masada, au lieu de la résistance juive.
Le sud de la mer Morte est dominé par un impressionnant rocher abrupt. Le plateau au sommet porte les ruines de l'antique Masada, un bastion fortifié quasiment inaccessible à l'époque. Au 1er siècle de notre ère, les Juifs se révoltèrent contre l'occupant romain. Un millier d'entre eux se réfugièrent à Masada pour lutter contre la répression qui suivit. Avec leurs réserves, ils pouvaient tenir des mois durant. La forteresse était bien protégée. Le roi Hérode l'avait dotée de moyens défensifs, mais aussi de bâtiments agrémentés de mosaïques. Les murs, vieux de 2000 ans, ont fait l'objet de restaurations, tout comme l'ancienne synagogue, la plus ancienne du monde. Les Romains s'emparèrent malgré tout de Masada, mais les occupants, plutôt que de se rendre, se suicidèrent. Masada est devenu un symbole de la résistance juive.
Bon, les amis, que pensez-vous, que peut être cet endroit? Et ça nous dit dans le film que face à la forteresse, à l'entrée de la forteresse, on nous a montré les pressoirs du vin. Et là, c'est vraiment les pressoirs à vin. Alors, on pressait les raisins par ici, et ça coule dans les fosses de l'autre côté.
Ah, c'est mieux.
Oui. À vrai dire, la culture la plus possible dans le désert, c'est le vin, le raisin et le vigne. Oui. Et oui, si on se rappelle de l'Ancien Testament, et puisqu'on est dans la journée du désert, on évoque l'Exode et Moïse. Moïse, avant d'arriver dans le pays, il a renvoyé des espions dans le pays. Et comment ils sont revenus, ces espions, à Moïse? Avec quelque chose dans la main. C'était quoi? Les cèpes. Parce que...
Il l'a planté.
Il l'a planté, oui. Il paraît que le vigne, c'est l'arbre qui n'a pas besoin de grosses quantités de l'eau. Et un petit goût de l'eau est assez pour irriguer. Et ces Nabatiens ont appris cela depuis le commencement. Et ils ont planté le vigne un peu partout dans les vallées, dans les wadis en bas, dans les vallées, et dans la plaine, laissez-moi dire, plus. Et ils pouvaient bien savoir comment conserver l'humidité autour des cèpes, autour des racines des cèpes. Ils mettaient les pierres, ils les irriguaient, ils mettaient de l'eau, mais ils mettaient des pierres, que l'eau n'est pas évaporisée avec la force du soleil, surtout en été. Ici, nous sommes dans la grande place, la forteresse. C'était le lieu de refuge des Cénabatiens quand il y avait les dangers qui se rapprochaient. Et si on remarque bien, au fond, il y a un escalier. De ce côté, il y a un escalier. J'imagine là, il y avait une autre forteresse ou bien une autre tour. C'était pour surveiller d'où est arrivé les dangers. Et c'est parti pour bien contrôler. Et les Nabatiens, quand ils se réfugiaient par ici, ils ne venaient pas les mains vides, ils venaient avec le bien qu'ils avaient dans les maisons. Et au plein centre de ce côté, on a la trace d'une citerne de l'eau qu'ils s'en servaient pendant ces temps de siège ou bien pendant ces temps de danger, qu'ils ne sortaient pas hors de la ville. Alors c'était la forteresse à laquelle ils se protégeaient contre les ennemis. Et cette place nous amène dans une autre place qu'on appelle le lieu sacré. Je vais foncer vers la droite pour voir une église. Plus tard, on va passer plus à gauche pour voir la deuxième église, celle de Saint-Théodore dont nous a parlé le père. Et je crois fort que c'était une église paroissiale. Ça veut dire qu'il y avait une communauté qui habitait ici. Et cette église était à la service de la communauté, la ville, la paroisse. Et qu'est-ce que vous dites? C'est que c'était ici, j'ai déjà entendu deux fois, deux bêtises, mais c'était quoi?
Un baptistère.
Un baptistère. À ce propos, je vous demande d'aller voir le père. Il va vous indiquer quelque chose.
Alors, donc, on vous a montré toute l'esplanade, hein, c'est vraiment prodigieux. C'est un point de domination extraordinaire sur toutes les quatre points cardinaux. Et comme on a dit, il y avait des tours au point centraux. La tour la plus là-bas qu'on a pas été parce que c'est trop long. Mais de là-bas, eh bien, on voit justement la route des Nabatéens qui arrivait, les caravanes et compagnie. Voilà. Parce que 2000 ans, c'est très court et dans l'existence. Vous verrez demain matin qu'on verra très bien les camps romains, etc. La nature défait les choses, mais elle défait à un rythme beaucoup moins rapide que les bulldozers aujourd'hui. Hein. Et donc, il est évident que nous saurons beaucoup plus de choses sur les civilisations de 3000 ans avant Jésus-Christ que du 21e siècle. Parce que nous, on rase tout, au bout de 100 ans, on rase tout. Et donc ceci était vraisemblablement un réemploi chrétien, puisque on trouvera deux grandes chapelles, on en a vu une. Ici, il y a une petite chapelle, et qui sans doute a été réaménagée, parce que ceci semble une structure qui s'est adaptée. Mais elle est très intéressante parce que c'est un baptistère, un double baptistère. On en verra un. Où l'on pouvait entrer adulte, vous savez. Voilà, je vais expliquer rapidement le système du baptistère, mais je disais simplement qu'il y avait deux. Donc, une trace de premier baptistère, mais simplement sans rappeler, parce qu'il fallait que les gens descendent dans le baptistère pour en remonter. En général, on descendait plutôt dans le baptistère depuis l'ouest, c'est-à-dire depuis les forces de la nuit, puisque le soleil couchant, la nuit arrive, quoi. Donc on tourne le dos aux ténèbres, on pourrait dire, et il y avait toute une préparation que je rappellerai quand on sera à Nazareth, parce qu'on va voir un baptistère paléo-chrétien, donc judéo-chrétien, très ancien. Donc j'expliquerai ce système. Mais donc on tourne le dos aux forces de la nuit, on tourne le dos aux forces du mal, on pourrait dire, pour être baptisé au pied, au fond du baptistère, et remonté par un rang d'escalier vers le soleil levant, c'est-à-dire vers le Christ ressuscité, quoi. Et donc, on peut imaginer que dans les baptistères primitifs, on descendait en tournant le dos à la nuit et on montait donc vers là-bas. Mais qu'est-ce qui nous montre que ce baptistère, d'abord il a été reconstruit, vous voyez, c'est tout neuf, hein, mais qu'est-ce qui nous montre que ça n'a pas servi, c'est que c'est, vous avez vu la marche, qui est-ce qui peut descendre là, voilà, donc, alors il faut être très bien retenu, bon, etc. Par contre, vous avez une deuxième structure ici qui est un petit bassin, un tout petit bassin. Ce qui veut dire qu'on est dans une période qui s'éloigne des temps primitifs où les gens étaient persécutés, où on était baptisés adultes, mais on commence massivement à baptiser à partir du 5e siècle les enfants. Et alors les enfants, eh bien, on n'allait pas les noyer dans le grand bassin, mais sûrement qu'on se servait d'un petit bassin à côté. Voilà. Mais vous voyez comment la mémoire travaille lentement. Hein. On ne supprime pas l'ancien temps. Et peut-être qu'il y avait des adultes qui aussi étaient baptisés à côté. Mais on superpose les éléments. Hein, voilà. Donc notre civilisation ne fait pas fi de tout ce qui a précédé, mais elle réemploie. Donc ici, le site a été réemployé chrétiennement, on pourrait dire. Et donc, on a vu une église. Je ne crois pas qu'elle ait de nom. Par contre, maintenant, on ira à l'église Saint-Théodore. Celle-là, elle est nommée Saint-Théodore. Théodore, qui veut dire le don de Dieu. Le cadeau de Dieu. C'est la grande période d'expansion du christianisme. Dans le désert, ça se traduit comment ? Eh bien, je passe beaucoup d'étapes. Hein. Ça se traduit comment dans le désert ? On a parlé du baptême des adultes. En fait, on ne donnait le baptême qu'aux adultes. Parce que c'était dangereux d'être chrétien. La religion n'étant pas licite, on était obligé de sacrifier ou de satisfaire au culte de l'empereur et des dieux romains. Et qui s'y opposait, évidemment, se mettait en marge, et donc était susceptible d'être inquiété, sinon persécuté. Inquiété, pour le moins, voilà, il y a eu plusieurs brimades possibles, notamment les carrières. Les carrières n'étaient pas possibles pour les chrétiens, dans l'armée, dans l'administration, etc. Mais aussi, ça peut aller jusqu'aux persécutions. Il y a eu de grandes, grandes périodes de persécution, déjà dès le 1er siècle. Quand on lit l'Apocalypse, eh bien, on entend le climat difficile pour les chrétiens. Voilà. Donc, derrière toutes ces descriptions qui sont plus terrifiantes les unes que les autres, Il y a bien sûr l'imaginaire. Il y a bien sûr l'imaginaire ancien, parce que l'apocalyptique, ce n'est pas le Nouveau Testament qui l'a inventé. C'est un genre littéraire qui existait un, deux siècles avant, et même Daniel, qui est un livre de l'Ancien Testament, est un livre apocalyptique. Bon. Donc, ils n'ont pas inventé le genre, mais il y a quand même une situation historique qui l'explique. C'est-à-dire, est-ce que le christianisme naissant va traverser sans dommage cette période de persécution, et puis ce fait surtout qu'il n'est pas autorisé, il n'est pas licite, et on est à côté ou en marge de la société quand on est chrétien, d'autant que depuis le Nouveau Testament, on appelle Jésus le Seigneur, Kurios, Kurios. Or, ce titre était réservé à l'empereur. L'empereur, il devenait de plus en plus Kurios, c'est-à-dire le Seigneur, c'est-à-dire quasiment Dieu, quoi. Donc, dire qu'il y a un concurrent, aucun régime n'accepte les dissidents, hein, sauf en République un petit peu, mais ils sont rares les pays où il peut y avoir une opposition normale, on pourrait dire. Les Romains ne l'admettaient pas non plus. Hein. Bon. Donc il y a eu une période de persécution à la fin du 1er siècle. Puis, pour sauter les siècles, en 250, grande persécution, avec de légères accalmies. Alors, 250, c'est l'époque du christianisme en Afrique du Nord. Donc, on pense à Cyprien, voilà, qui était évêque de Carthage, qui a de très belles pages pour encourager les chrétiens à tenir. Bon, et il y a Tertullien aussi qui dit comme cela, mais le sang des chrétiens devient, ou plutôt le sang des martyrs, le sang des martyrs devient semence des chrétiens. C'est-à-dire, bon, on nous tue, mais voilà, nous persévérons, et d'autres voient que nous suivons une route qui est la bonne, quoi, qui est la bonne. Bon, parce que la religion est expérimentée comme étant une libération intérieure-extérieure, voilà, qui ne nous met à la remorque d'aucune divinité, et d'aucune divinité humaine, fût-elle l'empereur, etc. Mais cette voie de liberté, elle se paye. La liberté se paye toujours. Bon. Et donc, l'empereur d'Est a été terrible. Et enfin, le dernier empereur qui a été terrible, c'est Dioclétien, à la fin du 3e siècle, c'est-à-dire vers 280-290. Et arrive notre empereur qui va s'appeler Constance ou Constantin. Et il est en opposition avec un général qui monte son armée contre lui. Il y aura une grande bagarre, donc sur le pont Milvius en 313. Et Constantin, qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétien, sa mère s'appelle Hélène. Donc l'a quand même instruit dans la voie chrétienne. Et donc, Constantin, dans un élan, alors on ne sait pas si c'est la légende qui raconte cela, mais enfin, en tout cas, on a rapporté ça de lui, tu vaincras par ce signe. C'est-à-dire, en regardant le ciel, dans le ciel, il y a comme une croix qui est dessinée dans le ciel. In hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. Et il engage la bataille contre son frère, je crois que c'est son frère, sur le pont Milvius, il a la victoire, et bon, voilà, donc on date de là, je vous dis encore une fois, l'histoire n'est jamais écrite comme cela, mais à la relecture, on dit, bien, c'est le moment où Constantin commencera à changer, et l'Empire romain va basculer de l'antichristianisme primaire à une religion autorisée. Et alors lui-même, Constantin, va demander le baptême. Alors, est-ce sur le moment ou sur le tard? Beaucoup pensent qu'il a attendu d'être presque à l'article de la mort pour recevoir le baptême. C'est bien commode, parce que être chrétien à ce moment-là, c'était quand même difficile. Donc quand on se tient dans la voie, on s'y tient. Et on ne fait pas comme ceci, à droite et à gauche, ou bien aller dans des chemins de traverse. Et les chemins de traverse pourront être retournés vers l'idolâtrie, retournés vers les cultes anciens, par exemple. Et donc, pour ne pas risquer d'être considéré comme renégat, ou bien, voilà. Et donc, Constantin n'aurait été baptisé que sur le tard. Bon, peu importe la vérité historique, on ne sait pas y remonter, mais on retient en tous les cas son nom comme étant le début de la paix romaine concernant les chrétiens. Et donc, un peu partout vont naître des communautés chrétiennes, des églises. On va commencer à prendre le temps d'écrire l'histoire de la première histoire. Eusèbe de Césarée va écrire l'histoire du christianisme, mais d'écrire des beaux manuscrits. Voilà, parce que jusque-là, eh bien, on écrivait sur du papyrus, un matériau qu'on trouve dans tous les marchés, qui ne coûte pas cher, qui ne dure pas longtemps non plus, mais bon, donc on pouvait écrire rapidement. Par contre, à partir du IVe siècle, le matériau deviendra noble, ça sera de la peau, soit d'agneau, soit de veau, etc., du vélin, bon, enfin plutôt d'agneau, je pense, et de mouton, mais enfin bon, ou de bœuf, peut-être aussi bien. Et donc, on commencera à écrire, et ce sont les grands, grands manuscrits du IVe siècle. Le plus important, c'est le Vaticanus, qui se trouve donc au Vatican, comme son nom l'indique, et il est du IVe siècle. C'est toute la Bible écrite en grec. Parce que vous savez, je vous l'ai dit que c'est la langue des débuts du christianisme. Bon, voilà une belle chose, mais une autre chose plus importante, c'est que une autre manière d'être chrétien va voir le jour. Cette autre manière, c'est la suivante. Bon, si, pour dire ça, on ne peut pas montrer notre foi en allant jusqu'au bout, parce qu'on ne va pas mourir pour notre foi. Maintenant, le christianisme est apaisé, ou l'Empire romain est apaisé par rapport au christianisme. Donc, on ne va pas donner sa vie, on ne peut plus donner sa vie. Or, il y a quand même, dans l'Évangile, c'est une exigence d'aller jusqu'au bout du don, etc. Voilà. Et jusqu'à ce qu'un certain Antoine d'Alexandrie entende, alors que lui allait à la messe tous les dimanches, mais donc un jour, alors qu'il avait entendu ce texte de l'Évangile 10 fois ou 20 fois, il entend « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens et suis-moi. » Alors il a pris ça au pied de la lettre, donc il avait un commerce, il a tout vendu, il a distribué ses biens, et il est allé vivre au désert. Et voyez comment le désert va prendre la suite du don de sa vie à la suite de Jésus. Voilà. De quelle manière vivre l'Évangile? De façon donnée entièrement. Donc c'est Antoine l'Égyptien qui va mettre sur pied ou inventer le monachisme, enfin ce qu'on appellera le monachisme, ça ne s'appelait pas comme ça autrefois. Et donc c'est plutôt des ermites, mais petit à petit, on va inventer un deuxième système qui est, on vit séparé la semaine, mais le dimanche, on se rassemble pour la célébration, et on se redisperse, on mange ensemble, et on se redisperse le soir, chacun avec son petit panier, voilà, pour vivre dans l'intimité du Seigneur. Et ces déserts, depuis l'Égypte, ont fleuri de moines dans tout le 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Vraiment. Et dans tout le bassin méditerranéen, on trouvait des traces jusqu'en Syrie, bien sûr, en Turquie également, bon, etc. Les grands, la Cappadoce avec les grandes cellules monastiques, etc. Donc, ici aussi, depuis Bethléem jusqu'ici, les déserts sont peuplés de moines, et de moines, donc, où ils ont une part communautaire plus importante, c'est le cénobitisme koinos. On met ensemble, hein, on vit ensemble, on prie surtout ensemble, 7 fois par jour, et puis on mange ensemble, on travaille ensemble, bon, voilà, donc, ils prennent la suite de ce qui s'est fait avant eux, hein, l'agriculture, l'élevage, etc. L'art de vivre aussi, l'art de vivre. Ils s'installent sur la plateforme parce qu'ils peuvent se protéger. Ils peuvent recueillir toute l'eau de la plateforme. Et vous avez vu une citerne. Quand vous sortirez, vous serez dans l'atrium. Et il y a aussi une immense citerne qui reçoit l'eau pluviale dont on se servait, dont on avait besoin pour le quotidien de la vie ordinaire. Donc, c'est l'ancêtre ici. C'est un peu l'évolution de l'érémitisme, mais c'est l'ancêtre de tous les monastères que nous connaissons, dont Maïlis. Il est tenace, hein. Ah, ici, c'est mieux. Je vais changer de main. Non. Ah oui, mais là, il s'est éteint, non? Bon, il s'est éteint. Alors, et voilà. Il s'est mis sur carte. Voilà. Je vais expliquer comme ça. En plus, à l'époque, ils n'avaient pas de micro pour parler.
On entend bien, là.
Ils n'avaient pas de micro, mais quand ils se mettaient ici...
Je pense qu'on entendait bien, quand même. Vas-y.
Alors, mais là, on ne va pas entendre.
Si, on entend beaucoup mieux.
Quand on parle vers ici, hop, ça sert de haut-parleur.
et ça sonorise toute l'église. Bon, donc ici il y a un ensemble monastique très très important, et tout autour, de l'habitat, etc., l'atrium, sûrement que le dimanche, les gens de la vallée venaient à la messe ici, c'est quand même une grande église. Alors pourquoi je voulais vous faire asseoir ici? Parce qu'on peut expliquer beaucoup de choses. D'abord, vous êtes entré par la porte principale et vous êtes entré, sans le savoir, dans une basilique. Qu'est-ce que c'est qu'une basilique? C'est une église, mais c'était du temps des Romains la maison du roi, la maison du peuple. C'est-à-dire le lieu public où les gens pouvaient s'asseoir, manger, s'installer, écouter, voilà, quand il y a des orateurs, etc. L'église, c'est-à-dire la communauté des chrétiens, a choisi ce mode pour s'assembler. Pas de suite. De suite, c'était des maisons. Par exemple, Alors, par exemple, pour ne rester que dans ce pays, on ira à Capharnaüm, et donc la maison de Pierre, qui était un petit enclos, on le verra, a été agrandi pour servir de maison-église, et puis sera transformée au 5e siècle pour devenir une église byzantine. Et puis, il y a eu même deux églises. Ça va rester inoccupé pendant de longs siècles, comme ici, et reconstruit simplement au 20e siècle, avant les années 1980, quoi, à peu près. Bon, donc, on se réunissait dans les maisons. Et, petit commentaire que je fais, si vous lisez la lettre aux Romains au chapitre 16, vous avez 37 noms qui apparaît. C'est-à-dire, Paul, à la fin des lettres, il dit, mais n'oubliez pas de saluer un tel, une telle, une telle, un tel, un tel. Alors, vous apprenez les prénoms, vous apprenez aussi quels sont leurs rôles, etc. Et je me dis, moi, que s'il y a autant de femmes qui sont nommées dans Romains 16, c'est parce qu'on se réunissait dans les maisons. Et que dans les maisons, c'est pas toujours les messieurs qui sont les chefs. Mais il y a des patronnes. Voilà. Et donc, vous voyez comment ce rôle de l'intérieur est devenu un rôle important pour la communauté. Et Paul a eu pas mal de collaboratrices. Luc nous parle beaucoup de femmes dans l'Évangile aussi. Bon, mais donc, le rôle des femmes, qui était révolutionnaire à l'époque, mais je ne vais pas faire de long développement maintenant. Mais voilà. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça n'a pas duré? Eh bien, parce qu'on est sorti de la maison. Et, voilà. Et quand, dès qu'il y a eu des espaces communs, les hommes ont repris le chose, parce qu'à l'extérieur de la maison, c'est l'homme qui commande. Enfin, il va au champ peut-être, mais il est au champ de bataille aussi, bon, etc. Enfin, tous les champs, le champ politique, enfin, il occupe tous les espaces publics, et tandis que la femme est plutôt cantonnée. Même si l'évangile et Saint Paul sont révolutionnaires, je ne vais pas vous le montrer ici, parce que vous pensez tous que notre Saint Paul est machiste, antiféministe, etc. Non, pas du tout. Non, mais ce n'est pas le lieu de le penser. Mais c'était simplement pour dire que, sans doute, qu'on se réunissait dans les maisons et que la femme avait un autre rôle parce qu'on était dans les maisons, justement. Donc, quand on a pu, on a construit de belles basiliques, comme on écrit de beaux manuscrits, etc. Donc, de belles basiliques. Alors, on prend le plan basilical. Essentiellement, c'est une nef principale, deux nefs latérales. Pourquoi? Parce que c'est important pour l'architecture. C'est que c'est assez élevé. Donc, on ne peut pas faire tenir le toit sur deux murs porteurs simplement, mais par des systèmes de colonnes et d'arcades qui font que les forces du toit seront réparties. Et du coup, c'est pratique aussi pour la lumière, parce que vous avez la plus haute partie du toit, c'est ici, et le pan commence ici. Et les plus courtes, avec deux autres pans, ça sera les nefs latérales. Mais entre les plus courtes et les plus longues, et les plus hautes, vous avez toutes les fenêtres. Donc la lumière vient par le haut. C'est ça le plan basilical. Hyper connu, à Rome vous n'avez que ça. Et ici c'était exactement cela, quoi. Donc la lumière venait par le haut et non pas par des lumières. Ce qui est très pratique aussi, parce que ça, pour les maisons, c'est pratique de n'avoir la lumière que par le haut. Ça évite que d'avoir des infiltrations ou des pénétrations par les bandits ou Dieu sait quoi. Voilà. Bon, donc le plan basilical, une nef principale, deux nefs latérales. Alors maintenant que vous regardez vers ici, donc, on a progressivement séparé la partie des fidèles du cœur. Dans la partie des fidèles, il y a cette structure ici. Je vais m'y mettre, que vous ne la voyez pas. C'est une partie élevée. Et à quoi servait cette partie élevée dans une église? À proclamer la parole. proclamer la parole. Prêcher, ça ne viendra qu'au XVIe siècle. Hein. Il y a encore 10 siècles à attendre, au moins. Non, pour annoncer la parole, et peut-être la commenter aussi, mais surtout, prêcher, je veux dire, annoncer la parole, proclamer la parole. Voilà. Et donc, c'est ce qui donnera, dans notre Église maintenant, l'ambon. L'ambon n'existait pas, pour les plus anciens d'entre nous, avant 1965, c'est-à-dire avant la fin du Concile de Vatican II. Hein. Avant, il n'y avait que l'autel, d'où était proclamé l'Évangile en latin. En dernier, quand même, on le traduisait en français, mais non, tout se passait dans le cœur. On a retrouvé l'ambon, on ne l'a pas inventé. Il faut lire Néhémie 8 et 9 pour savoir que Esdras, le grand prêtre, eh bien, s'est mis sur une estrade pour proclamer la loi de Moïse. Voilà, donc le lieu distinct. C'est pratique, pour que tout le monde entende la parole. Et que, quand on écoute, on entende la parole de Dieu, pas l'orateur simplement, mais la parole de Dieu. Donc, l'ambon. Mais ensuite, donc, on arrive par un rang de marche dans le cœur. Alors, ceci, c'est tellement neuf que vous avez deviné que c'est reconstruit. Sauf cette pièce-ci, c'est ancien. Tout ça, c'est ancien. Ce qui est ancien aussi, c'est la pierre de droite, là. La pierre de droite est encore plus mieux protégée, mieux conservée. Cette pierre-ci et l'autre aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si Nanou est physionomiste, elle reconnaît ? Non ? La croix qui figure sur l'étole.
Oui.
Voilà, elle vient d'ici. Voilà, parce qu'il y a eu une pèlerine qui dit, mais moi je sais, moi je dis, tiens, j'aimerais bien avoir sur l'étole une croix comme ça. Et puis une qui savait, voilà. Et voilà, donc il suffit de prendre la photo, c'est celle-là.
Voilà. C'est celle-là.
Non, c'est la croix d'origine d'ici, de Saint-Théodore. D'origine, voilà. C'est-à-dire que ça, ce sont des croix reconstituées. Mais d'origine, voilà. Donc, qu'est-ce que sont ces séparations ? Eh bien, on les appelle des chancelles. Nous, plus tard, on les appellera les tables saintes. Voilà. Le chancel. C'est-à-dire une séparation qui n'a pas toujours existé, mais plus on avance, plus il y en aura. Et je vais vous donner une des raisons après. Mais voilà. Donc, de séparation du cœur. Alors, ça sépare quoi ? Les trois nefs du cœur. Le cœur principal avait l'autel, je vais y revenir, mais deux petites chapelles latérales. Alors l'une était pour garder, tu vois, déjà à partir du IVe siècle, eh bien, on retrouve la mémoire des anciens, et en particulier de ces héros ou de ces saints qui ont donné leur vie jusqu'au bout, les martyrs. Et donc on appellera on réservera dans l'église un emplacement où l'on vénère les saints ou les martyrs. Alors nous le ferons, mais plus tard, en incorporant dans l'autel une relique. Voilà, on a gardé cette tradition par ce biais-là. Mais là, il y avait une véritable chapelle pour ça. Et l'autre chapelle, c'était la chapelle des offrandes. C'est-à-dire, on préparait le pain, le vin, etc., que l'on portait pour la messe, quoi, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc, deux chapelles distinctes. Alors, on arrive ici. Ici, donc, je vais vous dire ce que moi j'ai appris. Donc, vous voyez que l'autel est petit. Après la réforme du Concile de Vatican II, soit on a repris les anciens, bon, c'est le cas chez nous, hein, dans Saint-Esprit par exemple, on a repris l'ancien, soit on en a fait construire, mais on a fait construire, ils étaient très grands, parce que après le Concile, on a remis en honneur la concélébration. Et donc, voilà, plutôt que d'avoir des choses un peu mesquines, donnant un peu d'ampleur, voilà. Sauf que, non, la réforme a continué en disant, non, les hôtels ne doivent pas être très grands. C'est comme ça que Mgr Lustiger, à la cathédrale de Paris, a refait faire l'hôtel. Il est petit, l'actuel qui n'a pas brûlé, mais donc a été plutôt petit. Bon. Et regardez ici, il est plutôt petit. Ça n'empêche pas la concélébration. Parce qu'il n'y avait pas de messe individuelle, comme avant le Concile Vatican II. Il n'y avait pas de chapelle latérale pour les messes. Mais c'était une seule et unique célébration. Tout le monde y venait. Et ici, vous aviez non pas des bancs en pierre, en bois, mais un banc en pierre fourré. Et vous avez ça dans des églises romanes en particulier. Eh bien, tous les concélébrants s'appelaient là. Ils appelaient ça le syntronon, c'est-à-dire on est assis sur le même siège, quoi. Voilà. On partage le même siège. Et ces égaux avaient un président, c'est-à-dire ici c'est le père abbé, ou l'équivalent, quoi. Ça ne s'appelait pas comme cela, mais je crois que ça s'appelait l'igoumène, c'est-à-dire celui, le conducteur de communauté, quoi. Enfin voilà, le chef. Voilà. Et donc la messe se disait ici, première partie la parole de Dieu, deuxième partie l'Eucharistie. Et cet hôtel est très ancien. Des archéologues disent qu'il date d'avant la réforme de Justinien. Justinien, c'est un grand empereur byzantin. Il a fait une réforme dans les années 527. Et en particulier, dans les réformes, il y avait celle qui concernait les hôtels. On ne doit plus se servir d'hôtels anciens qui ont servi pour des sacrifices païens. Voilà. Et donc, celui-ci aurait servi à des sacrifices païens, puis il aurait été intégré dans cette église, qui est très, très ancienne hein, aussi. Voilà. Et donc, on l'a retrouvé, on l'a remise à l'honneur. Mais vous voyez, c'est plus ancien que 527. Quoi. Voilà. Donc, de contemporain de la construction, sans doute.
C'est ça.
Alors, mais ça, mais je pense que c'était au niveau de la structure ancienne, c'était pour recueillir peut-être le sang des bestioles bon, et compagnie. Voilà. Donc, plus possible de récupérer ou de réemployer des choses qui ont servi avant. Alors, donc, pour terminer, vous voyez que le Concile Vatican II, dont on dit beaucoup de bien et le contraire aussi, on dit qu'on nous a changé toute la religion, c'est plus comme avant, c'est vrai, ça a déstabilisé beaucoup. On ne va pas revenir sur tout ça, hein, mais. Donc, quand ils disent qu'il faut revenir à l'ancienne, ben l'ancienne, c'est 1958, quoi. Exactement ce qui existait en 1958 avant le début du concile. Mais si l'on regarde l'histoire de l'Église, on parlait des maisons de prière, on parle maintenant des basiliques et des basiliques byzantines, cette période florissante, eh bien, il me semble qu'on a là l'illustration de la réforme du concile Vatican II en ce lieu. Le lieu de la parole, le lieu de l'Eucharistie, l'autel de la parole, l'autel du pain. Voilà. C'est le même Christ, mais le Christ qui parle et le Christ qui partage le pain. Voilà. Donc, on revalorise, on pourrait dire, la parole de Dieu, qui était passée complètement à l'as, hein, parce qu'on la lisait en latin, et en plus on en disait qu'un petit bout de Saint Paul et un petit bout d'Évangile, le tout en latin, jamais de l'Ancien Testament, tout ça, voilà, bon. Vous voyez ? Un peu comment cette réforme a pris, c'est pas un caprice, ça a pris naissance dans la tradition de l'Église, quoi. Voilà. Et donc ici, on est dans un lieu de tradition, de cette mémoire qui s'est constituée. Alors l'appendice, le dernier mot, c'est pour dire ceci. L'une des raisons pour laquelle on a mis une séparation, bon, on peut le comprendre, séparer le cœur de voilà, parce que on va vers une séparation un peu comme existait dans l'Ancien Testament entre le profane et le sacré, peut-être entre le peuple et le clergé. Enfin bon, voilà. Il y a tout le temps, ça revient, on peut faire comme on veut, ça reviendra tout le temps. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a le culte des images. Et ça donnera les icônes dans le monde orthodoxe. Ici, nous sommes dans l'orthodoxie, c'est-à-dire la juste ou la droite foi qui était partagée par toute l'Église, y compris par Rome. Hein, voilà. La séparation n'interviendra qu'en 1054. Donc c'est la même foi. Mais, donc il y avait le culte des images et vous voyez, il y aura une grande crise. Par exemple, l'islam va naître lors de la crise des images. Pour eux, il n'y a aucune image possible et les juifs deviendront aussi radicaux par rapport à ça. On ne représentera aucune divinité. Pendant deux siècles, ça a bagarré. Et c'est Saint Jean Damascène, qui vivait dans un monastère à Bethléem, qui a emporté le morceau, si je puis dire, en 783, par un énième concile, pour dire qu'enfin, il est possible de représenter Dieu. Non pas de représenter Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le représenter. Si on nomme Dieu, on est sûr de se tromper. Si on le dessine, on est sûr de se tromper, donc d'en faire une idole. Mais Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Et c'est le visage de Dieu en Jésus-Christ qui nous rapproche de lui. Donc, dessiner une image ne nous tourne pas vers nous-mêmes, mais nous ouvre à Dieu. Donc, l'icône deviendra le contraire de l'idole. L'idole, c'est ce qui me renvoie à mon image. Je m'admire en regardant, voilà, ou en vénérant le dieu de la fertilité, le dieu de ceci, le dieu de cela, compagnie, voilà. Tandis que l'icône, eh bien, renvoie au mystère de Dieu. Le mystère de Dieu qu'on a approché, qui s'est fait connaître par Jésus-Christ, mais ça reste donc de l'ordre du mystère. L'image, c'est presque un sacrement. C'est presque un sacrement. Nous, on connaissons sept sacrements, mais un sacrement, c'est un signe de Dieu. Voilà, un signe de Dieu. Eh bien, l'icône est un signe de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'enfance de Dieu, etc. Vous voyez ? Et donc, comme les images reviendront à partir du 8e siècle, le 9e siècle, eh bien, il n'y a jamais assez de place pour l'image. Donc, on va faire monter le chancel et ça donnera l'iconostase. Dans les églises orthodoxes, eh bien, il y a une grande séparation qui monte jusqu'au plafond. Voilà. Donc, c'était voilà pour. Je vous remercie. C'était pour vous dire un petit peu ce qu'on pouvait dire en ce lieu.
Yes, you're tired, man. Yes, you're tired, man.